de filles dans mon comic strip.
Bulles à découvrir, une émission qui parle de BD et qui fait...
Je distribue les swings et les uppercuts. Ça fait. Ou bien...
Oui, ça marche.
C'est parfait.
Ça marche, c'est pas.
Parce que tu nous le fais tester parce que tu as peur que ça ne marche pas.
Non,
d'habitude.
Je ne vais pas tester. Là, voilà, comme ça, sans filet, bah, on sans nous a filet, dit, madame, madame la bibliothécaire est pressée.
Ah bah désolé.
Donc on va très très vite. Émission de BD, Bulles à découvrir aujourd'hui, dans laquelle on va parler de BD avec des voix bizarres, puisque je l'entends, tout le monde a plus ou moins la crève. Surtout la sablière.
Ah ben moi, j'ai,
surtout la sablière.
À l'issue de cette émission, j'irai m'écrouler au pied de mon médecin. Voilà.
D'accord, ben écoute, tu fais ce que tu veux. Chacun ses fantasmes.
Nos amitiés à ton médecin.
Fais-en une BD si tu veux, mais je pense que ça risque d'être un peu gore. Mais
ouais, c'est possible.
Comment Bernard va s'écrouler au pied de son médecin?
Bah, il va ramper, quoi.
On va commencer à parler de BD avec la spécialité de Florence,
oui.
Qui est la BD qui se lit à l'envers et qui est faite en Extrême-Orient.
Que bref, nous, ouais, on y comprend rien. Ils ont toujours
des grands yeux. On rappelle quand même que c'est 50% des ventes de BD en France,
oui,
aujourd'hui,
ouais,
c'est du manga.
50% hein. C'est du manga.
Certes.
Voilà. Et, leurs yeux sont plus si grands que ça, tu
c'est
retardes.
Vrai. C'est vrai.
Ils ont affiné, ça dépend.
Ouais. Ça dépend, oui.
Ah oui, mais ça. Ouais. Alors là, honnêtement, donc, je vais commencer à parler de Solo Camping for Two. Donc c'est une nouvelle série donc chez Soleil Manga de Yuda Hidebata qui parle de camping. Effectivement, donc ça, c'est une histoire. Alors c'est assez sympa. On retrouve en fait un personnage masculin qui a l'habitude de partir en camping tout
camping
seul.
Sauvage, donc.
Non, pas vraiment sauvage, ah. En solo, mais effectivement tout seul. Donc sur des campings quand même qui sont assez grands pour ne pas être les uns sur les autres. On n'est pas sur les campings villages de vacances. Et qui rencontre par hasard une jeune femme qui n'y connaît rien, et les deux finalement finissent par faire du camping ensemble. Alors, c'est sympa. Ça sert un petit peu de prétexte pour présenter effectivement les techniques de camping. J'avoue que
pas
la...
Pas les techniques de drague, donc.
Alors... Oui, si, il y a un peu de fanservice.
Ah, quand même. quand même.
Mais pas beaucoup. Après, moi, ce qui m'a un petit peu embêté, c'est qu'effectivement, la jeune fille qui n'y connaît pas, qui retrouve un masculin mentor, m'a un petit peu embêté. Du coup, je voulais en profiter pour reparler d'une série un petit peu plus ancienne, mais qui vaut franchement le détour, qui s'appelle Au grand air, de Afro. Donc, c'est le pseudonyme de la personne. C'est chez Nobi Nobi. Techniquement, c'est une BD jeunesse, mais qui est extrêmement fraîche et qu'on peut mettre dans toutes les mains. Ça parle aussi de camping. On a aussi là des personnes qui aiment bien camper en solitaire et qui sont très aguerries, et d'autres qui sont débutants. Là, pour le coup, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a que des filles. Donc, effectivement, il n'y a pas la question d'avoir un mentor masculin. Voilà, il n'y a pas d'histoire de technique de drague.
C'est bien. C'est plus pur.
Bon, après, si c'est bien fait, mais là, honnêtement, j'y crois pas, et c'est... Enfin, voilà, c'est mignon, c'est sympa, ce jeu Camping for Two, mais au grand air, ça vaut vraiment le détour. Les dessins sont adorables, ça donne envie de voyager au Japon, de faire du camping, et ça rappelle aussi que les jeunes filles, elles aussi, ont le droit à se faire de l'aventure.
Ben, exactement.
Voilà. Donc, voilà. Donc,
Florence a besoin de prendre l'air.
Voilà, tout le monde a besoin de prendre l'air. Donc, voilà, Solo Camping for Two, sympa, au grand air, gros coup de cœur.
Ok. Allez, bah, on va trancher, hein, parce que des fois, c'est la continuation des choses va avec une rupture profonde.
Oui. Là, je crois, ouais.
Voilà. On va parler d'une BD très, très gore, hein, de format comique. Ça s'appelle
Tranchant et le bon terme.
Tannen Hall, de Simon Spurrier, Charlie Adlar et Sophie Dockson. C'est sorti chez Delcourt. Le dessinateur, c'est celui de la série Walking Dead.
Et là, j'ai vraiment bien aimé. Alors, c'est une histoire. Alors au début, je ne savais pas trop où ça allait m'emmener. On arrive en fait au moment où un des exorcistes médiums d'Angleterre en fait est enterré. Donc avec la cérémonie de l'enterrement qui est menée par sa nièce, qui le présente comme le plus aimable des salopards. Sa part qui est marché sur cette terre, grosso modo.
Ah oui,
hein, je résume.
Plus aimable des salopards. Bon.
Ouais, je résume de façon un peu abrupte, mais grosso modo, c'est l'esprit. Et on se retrouve donc dans un moment, donc une personne, effectivement, donc la nièce, qui est donc une adulte, connaît elle aussi très bien le milieu des invocations, comment marche une invocation, comment on est à peu près toujours perdant quand on invoque un démon. Parce qu'un démon est démoniaque, c'est étrange, mais oui. Donc d'où, effectivement, et là, à ce moment-là...
C'est donc une BD didactique qui doit nous enseigner quelque chose sur la magie noire.
Sauf que justement... justement, les lois de l'invocation semblent être brisées à ce moment-là. Puisqu'on voit effectivement des personnes qui se mettent à invoquer des démons à tout va, ce qui normalement ne fonctionne pas. Et honnêtement, moi j'ai bien aimé. C'est une ambiance qui est très sombre. Il y a, bon, effectivement, il y a plein de sang. Quand on invoque des démons, ouais, ça se passe rarement avec des fleurettes.
Faut que ça saigne. C'est comme à la boucherie.
Ça saigne.
Ça saigne et puis même ça sort du ventre.
Ah oui, oui, oui. Ah, il y a des éviscérations, il y a des décapitations, il y a tout ce que tu veux. Oui. Hein,
C'est-à-dire que le gars, il a fait ses études avec ses gammes avec Walking Dead.
Bah ouais. C'est quelque part, il n'était pas connu pour dessiner des petites des fleurs.
C'est non, mais il n'y a pas que les jeunes filles qui vont prendre l'air et les fleurs. Il n'y a pas que ça, effectivement.
Voilà, il y a
dans la
tripes.
BD. Il y a de la tripe.
Bon, mais du coup, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est rythmé. C'est qu'effectivement, du coup, les personnages. Alors, les personnages, on peut. Ils sont tous gris anthracite. Hein. Il n'y en a pas un seul pour rattraper l'autre. Et c'est. Mais ils sont vraiment intéressants. Moi, j'ai vraiment envie de lire la suite. C'est touffu. Mais très honnêtement. Une fois que je me suis vraiment prise dedans, passé les 20 premières pages, j'ai vraiment pas pu le lâcher, j'ai vraiment envie de lire la suite. Donc ça, Damned Them All, donc maudissez-les tous.
Maudissez-les tous, oui.
Vraiment, ça m'a plu.
Très bien.
Eh ben écoute,
mise en place d'un univers.
Très bien, moi je t'avoue que j'ai eu
un peu du mal,
ouais.
C'est parce que t'as pas lu Au Grand Air avant pour équilibrer.
Voilà, c'est pour
ça doit être ça.
Ouais, allez, Florence n'a peur de rien, ne l'oublions pas.
Univers beaucoup plus rose avec une BD de fille, c'est de Mathilde Ducrest et ça s'appelle Fragile. Elle fait parole et musique. Hein. Voilà.
Très joli.
C'est sorti chez Casterman.
Donc c'est une.
Oui, vas-y.
Très jolie BD. Je parle beaucoup, moi, là, en ce moment.
Non, vas-y, n'aie pas peur.
Après, tu t'en vas.
Eh ben oui, c'est un navré. Donc, effectivement, la très jolie BD avec un très joli dessin, avec une belle mise en couleur, très honnêtement, qui fait beaucoup, en fait, pour l'ambiance du dessin. Effectivement, c'est une BD très féminine. Je dirais pas forcément deux filles, parce que je pense qu'effectivement...
Non, deux filles, parce que c'est fait par une fille.
C'est fait...
C'est ce que je voulais dire, pardon.
Mais ouais. Le résultat, c'est de la douceur.
Alors là, pour le coup, c'est effectivement une histoire en fait de transmission féminine également. Et le point de départ, donc c'est une jeune fille qui cherche un petit boulot. Et la personne chez qui elle habite, donc elle fait une de ses cohabitations, colocations avec une personne âgée, lui suggère d'aller voir telle famille qui est connue pour être assez riche, qui demande en fait une étudiante pour faire du dog sitting. Et il se trouve que donc la propriétaire du chien et effectivement l'héritière d'une famille qui a fait son nom dans les affaires et qui se trouve être à la même fac qu'elle, mais dans une autre branche et qu'elle ne connaissait du coup que de nom et un peu de vue. Et on voit effectivement, ça se passe effectivement très en douceur, donc c'est quand même une belle BD en fait qui fait quand même ses 180 pages.
Ah oui, quand même.
Et on voit effectivement s'installer la relation entre les deux jeunes filles. Qui est un petit peu. Qui dépasse un peu l'amitié, je pense pouvoir le dire. Mais c'est quand même.
C'est ambigu.
C'est ambigu. Ça reste toujours. On peut l'interpréter un petit peu comme on veut. Visiblement, c'est fait exprès.
Oui.
Et la transmission également, d'un héritage familial qui peut être compliqué, de la manière aussi dont une femme peut avoir, dans les années 40, 30, 40, 50, peut avoir apporté quelque chose, donc très, très concrètement. Une l'arrière-grand-mère de la jeune fille propriétaire du chien qui cherche quelqu'un effectivement peut amener quelque chose qui a fait la richesse de la famille et se retrouve complètement occulté des livres d'histoire. La manière dont c'est fait, c'est très doux, c'est intéressant, ça se lit très bien et on s'attache beaucoup au personnage. Ouais, donc
c'est vrai.
Et des fois c'est
très contre-intuitif les rapports qu'elle noue et
Au fur et à mesure où tu tournes les pages, moi je vois beaucoup de douceur et puis des corps qui s'approchent, mais pas plus.
Alors là, honnêtement, elle a fait un scénario qui colle à son dessin de façon assez exemplaire.
Ouais.
C'est un très très bel objet.
Mais ça, c'est toujours le truc quand on fait parole et musique.
Ouais.
Au final.
Tout le monde n'en réussit pas à jouer les deux partitions aussi bien.
Ouais. Non, c'est pas simple, c'est vrai.
Alors, ça s'appelle Fragile et c'est chez
Casterman, donc Mathilde Ducrest.
Ouais. Les cinq drapeaux pour continuer cette émission. On va pas mal parler de BD qui ont trait à l'histoire historique ou semblant d'être historique. Alors, c'est annoncé d'ores et déjà. C'est le premier tome d'une série de cinq. Ça va être d'une densité énorme. Ça s'appelle Les cinq drapeaux. Et c'est là aussi paroles et musique par Pau et Pao. Mmh. Je sais pas comment on le dit.
Moi non plus.
Et c'est sorti chez Paquet qui nous a fait la gentillesse de nous envoyer des BD. Ça faisait longtemps, donc je suis bien content en plus de recevoir cette BD qui parle, alors Bernard a dit retirada, ça parle entre autres de la retirada,
oui,
mais pas que de la retirada, et ce serait très réducteur. Alors l'idée de Pao, l'histoire hein, globalement, c'est, je pense que c'est quelque chose de réel. Hein.
Oui, ça a l'air, il y a des photos de famille à la
oui,
fin.
Oui, c'est ça, Pao il a son grand-père,
oui.
Hein, c'est son grand-père, je... Regarde, qui alors ça commence par des scènes à la plage où il explique comme son grand-père était super organisé à la plage, quand il leur faisait faire plein de trucs, etc., etc., au début des années 80.
Et il leur racontait des horreurs pendant qu'ils mangeaient leur sandwich.
Et qu'il leur racontait des horreurs de la guerre pendant qu'ils mangeaient leur sandwich. Parce qu'en fait, ils ont retrouvé à la mort du grand-père un carnet, enfin des carnets dans lesquels il avait noté tout ce qu'il avait vécu, et il avait été soldat pendant la guerre d'Espagne, on a déjà repris, il ne faut pas dire guerre civile, c'était une guerre, pendant la guerre d'Espagne. Ensuite, il a fait la retirada et en fait, il a évolué sous cinq drapeaux différents, dont le titre
voilà,
de la BD. Le drapeau de la République espagnole, celui de la France quand il était en France. Il a été un peu sous le drapeau anglais, alors ça y est pas dans celle-là, mais il a été dans le corps expéditionnaire des Anglais pendant la bataille de Dunkerque, dans tous les bons plans. Drapeau nazi parce qu'il avait été condamné à des travaux forcés sous les nazis, et le drapeau franquiste puisqu'il a été victime d'esclavage et de répression pendant l'Espagne franquiste, le papy. Ce qui est très original, il y a deux choses qui sont très originales dans ce récit où on fait des allers-retours dans les époques vécues, hein, entre le moment où il est sur la plage du Barcarès, je crois, de Barcarès, et des moments pendant la guerre civile espagnole où on te raconte des petits bouts comme ça de bataille de l'Ebre, de bataille de Belchite, je crois, entre autres. C'est que on se retrouve sur les époques avec... c'est pas tant les couleurs, enfin la note de couleur des pages. Quand c'est tout en couleur, c'est sous la République. Voilà. Quand c'est en noir et blanc, c'est sous le drapeau nazi, etc., etc.
Ou dans les camps.
Dans les camps. Et le deuxième truc très original qu'il y a dedans, c'est qu'ils sont un peu dessinés en petit Mickey.
Oui.
Oui.
Ça pourrait ne pas marcher, et je trouve que ça marche, mais incroyablement bien.
Ça marche incroyablement bien, parce que c'est extrêmement bien fait. Les décors sont très détaillés. Mmh. Et effectivement, les petits personnages ont des têtes qui rappellent... Oui, effectivement, on pense forcément à Mickey. Ça fait penser en fait, à beaucoup de cartoons en fait, des années 30.
Ouais.
Hein, mais avec un dessin qui est très fin, qui est extrêmement maîtrisé. Et surtout, ça apporte en fait... le contenu est très noir. Honnêtement, là, dans le premier volume, on les voit au moment où ils sont parqués dans des camps en France.
Une histoire où la République se fait laminer, trahir, se fouler aux pieds, où les gens sont maltraités et où ils arrivent en France. Ça te raconte pas des choses super joyeuses.
Et justement, en fait, ça permet de contrebalancer, je pense. Et de faire passer avec un dessin réaliste, ça serait peut-être encore plus compliqué.
Ouais.
Là, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'à la retirada, au moment où ils arrivent en France, en Ariège, on le sait un peu. Par contre, ailleurs...
On ne peut pas l'ignorer.
Mais ailleurs, en France, ça s'ignore très bien.
Bien sûr.
Effectivement, d'avoir une BD qui est quand même... pour le coup avec une diffusion nationale qui va te parler effectivement de la retirada, de la manière dont les gens ont été traités et parqués dans des camps. On en parlait à l'instant avec quelqu'un d'autre qui a lu la BD, il y a de quoi avoir honte.
Oui, bien sûr.
Et c'est important d'en parler.
Bien sûr. Et moi ce que j'aimerais dire c'est qu'à un moment, il y a quand même un salut à la BD Maus qui a évoqué la Shoah avec des animaux.
Oui.
Et toutes les victimes sont des souris. Enfin, grosso modo, c'est des souris ou des rats. Et là, j'ai l'impression qu'il a repris à peu près le même fil.
Comme il le fait très différemment, c'est vrai qu'on y pense, mais c'est vraiment assez, assez lointain.
C'est vrai. Moi, je trouve que c'est lointain. Et alors, moi, ce que j'ai... Parce que, alors, toi, tu me dis, Bernard, on se disait, on peut le dire, hein, que des fois, les histoires de retirada, on est un peu submergé et que ça peut... voilà, alors, déjà, d'une, en BD, c'est rare. Et moi, je trouve que c'est quand même assez rare, les BD. Et quoi qu'il arrive, même toute création, qui traite de la guerre d'Espagne. Je pense qu'en France, on a quand même un rapport honteux à ça.
Ouais, ouais. J'allais parler de la honte, effectivement. Ouais. Il y a de quoi avoir honte. Parce que comment la France a traité les réfugiés. C'est honteux, c'est honteux, c'est scandaleux.
Comment elle a laissé les nazis expérimenter leurs armes en Espagne sans se rendre compte de ce qui se passait. Comment, enfin, on pourrait en mettre... comment elle a laissé les Russes pourrir le camp républicain.
Et le silence qu'on fait en histoire à ce sujet est lui-même honteux.
Et oui, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et alors, du coup, déjà, parler de ça, je pense que c'est plutôt bien et en BD. Et en parler avec cette intelligence, et puis toujours pareil, t'as toujours ce regard-là où des fois on te parle de l'histoire et puis on te dit ah bah il y avait eu 300 000 personnes dans les camps sur les plages, etc. Ça te dit pas grand-chose. Mais quand on te les montre aller faire caca et te dire dans quelles, pardon de le dire comme ça, mais dans quelles conditions ils pouvaient aller faire caca et dans quel état ça laissait la mer, l'état sanitaire de la plage, etc., vécu par quelqu'un qui est dedans. Et qui, à tout moment dans la BD, c'est ça aussi qui est hallucinant, garde une dignité qui est incroyable.
Oui. Et effectivement, quand tu dis effectivement dans quelles conditions, c'est qu'au départ, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils étaient simplement, en fait, parqués sur la plage avec des barbelés, sans même une couverture, sans un baraquement,
Sans rien, bien sûr, ils dormaient dans le sable.
En février.
Oui, ils étaient obligés de dormir dans le sable pour se protéger du froid. Bien sûr.
Moi, je trouve que cette BD, elle est d'utilité publique. Et puis, elle est bien faite, et moi, je me suis laissé... Alors, c'est vrai que l'histoire de la guerre civile espagnole me touche beaucoup, à titre personnel. Et voilà, mais par histoire familiale, moi j'ai de la famille dans l'autre camp. Mais
ah ben bravo.
Bon, on se refait pas, hein. On y est pour rien, on n'est pas responsable. C'est incroyable parce que ça a une dimension à la fois personnelle, humaine et à la fois politique.
Politique et historique.
Aussi,
elle
c'est
est
important,
vraiment
la dignité.
Ouais. Oui.
C'est j'étais bluffé par cette BD, vraiment pour de vrai.
Ouais. C'est une très bonne BD.
Ouais. Ça s'appelle les 5 drapeaux et presque je t'ai un peu fait douter.
Douter, je ne peux pas douter sur la Retirada.
Non, mais de ton rapport à cette BD.
Ah ben mon rapport, c'est que pour moi, il y a un écho puissant à Maus. Si tu ne veux pas l'admettre, c'est ton affaire, mais c'est évident.
Ou alors, je ne connais pas.
Bah, je peux que dire qu'il sera bientôt à la bibliothèque et que du coup, les gens pourront venir se faire leur opinion eux-mêmes.
Oui, voilà. Ça s'appelle Les 5 drapeaux, c'est chez Paquet. La série sera de 5 volumes. J'espère qu'on les aura. C'est le premier qui est sorti.
Liberté, égalité, fraternité.
Et ça, c'est de Pao. Et quand vous la lirez, vous comprendrez un peu tout le cynisme qu'il peut y avoir derrière ce titre.
Bien sûr.
Allez, Captif des glaces pour continuer cette émission Bulles à découvrir avec Clément Balou, Hugo Stéphan chez Steinkiss, une histoire de grand froid
de grand frais, non,
et de, non, et de conquête du pôle. Bon, même si là le projet a capoté.
Comme tous. Enfin, honnêtement.
Comme beaucoup.
Oui, parce que c'est vrai qu'effectivement, moi, je me souviens quand j'étais gamine d'avoir lu des histoires qui, à l'époque, étaient racontées par Alain Bombard sur ceux qui cherchaient le passage du Nord-Ouest et qui mouraient gelés au milieu.
Oh là là.
Et
oui.
Je me souviens d'avoir lu quelque part Dan Simmons qui racontait l'histoire du Terror et de l'Erebus. Devinez quoi ? Ils ont été pris par les glaces, tout le monde est mort.
Tout le monde est mort.
Et ben non, ils n'ont pas été broyés, ils les ont retrouvés, figure-toi, il y a une dizaine d'années, les bateaux.
Oui, oui.
Un endroit où tout le monde leur disait c'est pas là, les Inuits. Ah ben non, les Inuits avaient raison, sans blague. Bref, et donc là, effectivement, donc après toutes ces débâcles, donc là, on est dans les années 70 de mémoire, où il nous parle effectivement de personnes qui, quand même bien obstinées.
Ah, très obstinées, oui. Ah ben, il fallait ça.
Ah ben, fallait bien. En 1875, donc après tous ces déboires, en fait, avec tous ces gens, en fait, perdus, morts, gelés, avaient déjà eu lieu. Et donc là, effectivement, on a une nouvelle, expédition qui part pour aller chercher le pôle Nord.
Nous, on va y arriver parce que ceci, parce que cela, et puis tout est faux. Ça, c'est ça qui est...
Pas forcément.
Voilà. On vous dit, en fait, il y a un courant chaud, en fait, qui monte du Japon, qui va aller, ce qui fait qu'en fait, il y a une mer chaude autour du pôle Nord. Comment ça se fait? Mais si vous verrez, moi.
Et puis, il n'y en a pas.
Ah bah non.
Donc, il longe le Kamchatka.
Pardon, je suis désolée, c'est tellement... Mais c'est dramatique comme histoire.
C'est dramatiquement.
On arrive à un point où c'est tellement dramatique que c'est...
Puis alors, ils ont peur de rien parce qu'ils fabriquent un navire spécialement pour ça, super renforcé pour résister à la glace.
Oui, comme le Terror et les Erebus 20 ans plus tôt.
Voilà, ou le Titanic ou tout ce que tu veux. Enfin bon, et puis à l'arrivée, bon ben voilà, comme d'hab.
Bah, il est pris par les glaces. Donc la première chose qu'ils font, ça porte malheur. Et moi, j'aurais tendance à dire, quand on va partir dans les glaces, dans un endroit où tout le monde reste bloqué, c'est bien de faire attention à ce qui porte malheur.
Voilà.
Ils achètent donc un bateau qui avait fait ses preuves, qui était blindé, qui était solide.
Et ils le surblindent.
Et surtout, ils changent son nom.
Voilà.
À ce stade-là, le blindage, ça fait plus rien. Mais changer le nom, par contre.
Parce que ça, ça pas bonheur.
C'est, donc au départ, il s'appelait le Pandora. Ils disent, oh, Pandora, quand même, celle qui amène la... Oui. Donc, ils le rebaptisent le Jeannette.
Oui. Quand même, de nom de femme.
Et ça se fait pas trop sur le bateau. Non, c'est il y avait un truc, les marins disaient qu'il fallait pas mettre de femmes sur un bateau, ça porte mal.
Mais par contre, le nom, il me semble pas. Je me semble que c'est. Enfin bref, donc du coup, c'est une histoire vraie. Hein. Après,
ah oui,
il vient
documenter. C'est une histoire vraie, c'est catastrophique. En même temps, héroïque. Hein.
Oui, parce que c'est l'histoire d'un sauvetage.
Le capitaine, chapeau le mec.
Oui, parce qu'il y en a un, effectivement, qui sort son épingle du lot, qui réussit quand même à sortir un tiers des marins vivants. Oui. Et les deux autres, tiers, malheureusement, sont perdus corps et biens. En fait, il reste bloqué 2 ans sur la banquise. Alors, ils savaient qu'ils risquaient d'avoir un hivernage, donc ils avaient prévu, effectivement,
Ils ont tout prévu.
Le problème, c'est qu'au bout d'un moment...
Sauf que 2 ans, c'est trop long, quoi.
Bah, après, déjà, on commence à arriver au bout de la nourriture. Ouais. Il y a le saturnisme qui s'installe, qui fait des ravages. Ça, c'est un grand classique de la conquête polaire, le saturnisme.
Quand tu as le plan du bateau et que tu vois qu'il y a je ne sais plus combien d'hommes là-dedans et qu'ils sont bloqués là-dedans, mais quelle horreur, quoi.
Bah, déjà, ils arrivent à s'entremanger entre eux, c'est déjà pas mal. Honnêtement, et puis au bout d'un moment, ils s'aperçoivent en fait que la banquise les fait dériver dans des endroits où il n'y aura jamais personne. Donc, ils décident d'essayer de rejoindre à pied dans des conditions absolument effroyables, avec la neige qui tombe à des moments où elle ne devrait pas tomber, qui les ralentit, la nuit polaire, donc qui est complètement... Ben voilà, j'explique pas ce que c'est qu'une nuit polaire. Hein,
Très oppressant comme une nuit.
C'est très oppressant.
À un moment, il y a une scène tout à fait étonnante, je ne savais même pas que c'était possible. Tout est gelé. Et à un moment, il y a une grande vague qui arrive, donc qui
une vague de glace.
Je pensais que quand tout était gelé, il n'y avait pas de vague du tout, et que ça empêchait les vagues. Et là, il y a une vague qui arrive malgré que tout soit glacé. C'est une horreur.
Et qui brise le bateau en morceaux.
Qui finit par briser, oui.
Voilà. Donc effectivement, après, c'est j'ai un petit trou de mémoire sur le nom du capitaine. Mais effectivement, il y est retourné pour aller chercher survivants.
Il y a une femme qui vient le chercher en disant il y a une expédition, ils sont pas revenus, est-ce que vous iriez les chercher?
Et il y va.
C'est un fou, cet homme.
Mais effectivement, c'est on ne peut plus héroïque.
Oui, héroïque.
Et en même temps, tellement stupide.
Ce qu'ils espéraient, c'était notamment trouver, au-delà du pôle Nord, beaucoup espéraient trouver notamment un passage du Nord-Ouest en fait de raccourcir les routes de commerce.
Ils
partent sur des informations fausses.
Voilà. C'est ce que je veux dire, quoi. D'engager autant de moyens, autant de risques.
Et autant de vie.
Des allégations comme à l'époque, c'était ça les explorateurs aussi.
Je crois que c'était les derniers endroits qui étaient considérés comme vierges, donc ils se disaient les derniers endroits à explorer.
Il y avait quelque chose à gratter. Potentiellement. Ça s'appelle Captif des glaces. Alors, il y en a beaucoup, ces derniers temps de BD qui parlent des conquêtes des pôles sud-nord. Mais celle-là est vraiment bien. Je pense qu'elle se démarque.
Elle est bien faite. Elle se lit très bien.
Ouais. Allez, ça se lit moins bien. Les 100 derniers jours d'Hitler, c'est une adaptation d'un livre de Jean Lopez. Alors, encore Hitler, on va nous dire. Et puis surtout. On a une BD là qui est sortie chez Delcourt. On va pas y passer la nuit dessus parce qu'on a tellement de bons trucs à évoquer. Où de façon très linéaire, entre le mois de février, janvier 1945, la mort d'Hitler en avril, on prend jour par jour tous les événements avec une multitude de protagonistes. Ça peut être des gens du peuple, ça peut être Hitler, ça peut être un général, ça peut être des Russes, ça peut être machin. Et on passe de l'un à l'autre. Et puis, c'est juste tout ce qui rythme ça, c'est une date.
Voilà.
Ouais.
Voilà. 8 mars, 9 mars, 10 mars. Et c'est long. Et ça en finit plus. Bon, on connaît la fin en même temps. Ça en finit.
Quand on a vu la chute, pour moi, c'est une reprise de la chute.
Sauf que la chute, elle a ceci d'intéressant, c'est un film.
Oui, c'est que c'était dans le.
C'est que tu es là sur le regard de ce qui se passe autour d'Hitler.
Bien sûr.
Et que du coup. Humaniser Hitler, je ne sais pas si c'est le mot. En tout cas, tu humanises une situation et tu l'incarnes.
Ouais.
Là, c'est même pas incarné. Si tu passes de l'un à l'autre, voilà, c'est
Effectivement, le livre pouvait avoir son intérêt avec son côté très linéaire pour les gens qui cherchaient effectivement quelque chose de très précis.
Ouais.
Là, c'est une mise en image du livre très classique, que ce soit dans le dessin,
Oui, et puis il y a quelque chose à revenir comme ça sur Hitler tout le temps.
Oui, c'est,
tu parlais de la retirada, que dire d'Hitler?
Oui, que dire, évidemment.
Voilà. Western maintenant, avec un tome 1 d'une série qui s'appelle Red Gun de Godin, Massaglia et Facio. C'est sorti chez Soleil, La Voix du Sang. Le tome 1, c'est un enquêteur,
oui,
Red
plutôt,
Gun.
Plutôt sympa,
un flingue rouge.
Un bon western classique, ouais. Très honnêtement. Mmh. On retrouve un petit peu tous les ingrédients du western classique. Il y a de jolies filles, quelques jolies filles un petit peu. Voilà. Il y a beaucoup de boue. Il y a... comment dire, après, effectivement, avec la, donc après la guerre
sur
de
Sécession. Sur le chantier de la voie ferrée.
Oui, de la
Pacifique.
Et effectivement, qui est, bon, c'est une reprise en western de Jack l'Éventreur.
Oui.
De quoi, de
Jack l'Éventreur. Oui, il y a un côté comme
moi,
ça.
Pour moi, c'est la reprise de Blueberry, qui est le cavalier, comment ça s'appelait, le cheval de fer.
Oh non,
ah,
bien sûr,
non.
Tous les personnages y sont.
Il y a des trains.
Honnêtement,
mis
à part.
Il y a des personnages,
il y a
d'autres.
Il y a d'autres.
Je suis désolée, mais enfin.
Il y a les femmes. Bah, tout y est, les femmes.
Qu'est femme.
Oui, bah, c'est,
les,
du, c'est parce que
personnages.
C'est parce que Blueberry est un western classique. Bah, donc effectivement, oui, tu vas retrouver les femmes. Mais
non, celui qui a fait Red Gun.
T'as pas une enquête sur des bonnes femmes qui se font étriper, Bernard.
Ils sont. Ouais, c'est vrai que les bonnes femmes, il y en avait pas tant que ça dans les Blueberry.
Non.
Si.
Mis à part Goofy Palmer. Oui, il y avait Goofy Palmer.
Bien sûr. Et justement, elle
et
arrive.
Et Chihuahua Pearl, les pieds parsés, et puis en sortie de là, t'as pas grand monde.
Ouais, je suis pas d'accord. Si tu dis ça, Bernard, c'est n'importe quel BD doit être.
Parce que je suis désolée, mais dans le Cheval de Fer, c'est Stillfinger qui fait l'histoire.
Oui.
Et il y est
bien
pas.
Bien sûr. Et ben, il apparaît pas, effectivement.
Mais non, puisque c'est, pour le coup, c'est vraiment une création de Charlie
non,
et Giraud.
Je pense que celui qui a fait Red Gun, il avait ça en tête et il s'est dit, tiens, je vais faire
après,
un truc à ma sauce.
Sinon, c'est effectivement. Bah, effectivement, de toute façon, tous les gens qui font du western en France, je pense qu'ils ont tous lu les Blueberry, je suis désolée.
Ah, tu crois
c'est...
c'est... Je suis pas sûr, hein.
Éventuellement, si tu les fais camper
non,
pendant 30
courir,
ans.
Dans le...
Il y a tous ces trafics autour des terrains, autour de la violence, autour des hommes. Enfin, c'est, bon, voilà.
Après, cela dit, c'est une bonne BD.
Ah, c'est
qui
très
suit
bonne
bien.
BD.
Oui.
Ouais, qui est sympa.
Et moi,
qui est
et moi, je l'ai trouvé beaucoup plus original que ce que dit ce triste personnage.
Triste personnage.
C'est, et c'est donc, du coup, effectivement, ouais, c'est un bon western pour ceux qui aiment bien.
Oui,
Peut-être pour ceux qui aiment bien le genre, quand même,
oui,
en priorité. Oui. Mais honnêtement, Warren Gunn, La Voix du Sang, donc, qui démarre une série.
Mais oui.
Franchement, si vous aimez bien western, allez-y.
Oui.
Hein.
Et le personnage, il est bien, parce qu'il a, beaucoup de complexité, de fêlures, etc.,
ouais,
qui sont bien, bien transcrites.
Oui. Alors que Blueberry, il est en caoutchouc.
Et à noter que.
Oh, il se relève toujours.
Blueberry n'est pas en caoutchouc. Non, moi, je ne peux pas entendre ça.
Je l'adore, mais.
On va faire un livre sur Blueberry. À noter que.
Je ferai la préface.
Voilà, on peut faire des parallèles avec Blueberry, on peut aussi en faire avec Il était une fois dans l'Ouest, avec le côté les terrains, etc.
Ouais.
Qui sont très peu abordés dans Blueberry. On peut en faire aussi avec les histoires de Jack l'Éventreur, voilà, parce qu'il y a vraiment cette enquête-là.
Oui, il y a une enquête, c'est sûr.
Voilà, voilà, c'est un mix de tout ça. Après, qu'est-ce qu'une culture, sinon un mélange de cultures qui ont précédé.
Ouais. Là, ça fonctionne.
Ouais.
Bon truc.
Non, c'est vrai que moi, je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt.
Ouais.
Voilà. Ça rappelle Game of Thrones, c'est les cinq terres, mais avec des animaux. Elle est fan, Florence, des cinq terres.
Je suis fan des cinq terres et je pense que j'ai toutes les raisons pour. On est quand même sur des bonnes histoires qui sont complexes, avec des personnages qui ne sont jamais, enfin, qui sont vraiment intéressants. Ils sont en général intelligents. Jamais tout d'une pièce. Et là, en fait, on revient sur Demeus Lore. Demeus Lore, en fait, on le voit apparaître dans les tout premiers volumes des Cinq Terres. Et en fait, donc, c'est... On le voyait donc dans les Cinq Terres, donc dans les chroniques d'Angléon. Et en fait, il accompagnait un otage qui allait être retenu donc, à la cour d'Angléon. Et Demeus Lore, donc... Et... Sauf que la personne qui l'accompagnait, qui était l'otage... Eh bien, comment dire qu'il disparaît? En tout cas, Demeus Lore prend sa place. Et après la fin, quand les otages sont renvoyés chez eux, il revient, il dit que la personne qu'il accompagnait est morte pendant la captivité, et il reprend son identité d'origine, donc Demeus Lore, et il s'installe comme maître d'armes sur une toute petite île. Et cette toute petite île, donc, quand on l'a lu, alors je voudrais pas vous spoiler les cinq terres pour ceux qui ne les auraient pas lues.
Ah, oui.
Mais donc, à chaque fois, donc, les têtes de personnages, donc les félins, les ours, correspondent à une nation.
Oui,
et au tout début de cette BD-là, les ours, donc on voit bien que ça représente les vikings, enfin, largement inspirés des vikings, arrivent, envahissent l'île. Et se mettent à l'occuper.
Et puis à vouloir mettre la main sur ses ressources.
Et donc c'est une île qui est isolés, avec des félins qui sont petits, donc pas vraiment de taille à se battre contre des ours. Sauf que Demeus Lore, le maître d'armes, réussit à en abattre un. Et se retrouve finalement, au tout début, à la tête d'une résistance. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand on résiste? Forcément, ceux qui tiennent l'île sont tout à fait ont tout à fait la possibilité de prendre des otages. Donc qu'est-ce qui se passe quand est-ce qu'on arrête la résistance? Qui veut la continuer? Qui est un traître? C'est extrêmement complexe. Je voudrais pas. J'ai pas envie de la déflorer, mais c'est une petite merveille. Ouais. J'ai adoré la relation entre les personnages. J'ai adoré en fait la manière dont on devient un héros dans la postérité. J'ai tout adoré. Donc lisez. De toute façon, j'adore les 5 terres, mais là honnêtement, c'est un bon volume en plus.
Oui, puis ça donne de l'ampleur à la saga quelque part.
Oui, oui. Ça lui amène en fait des endroits qui sont complexes. Chaque personnage est vraiment. Donc vraiment, allez-y. Et ça, en fait, Demeus Lore, même si vous n'avez pas lu le reste de la série, vous pouvez le lire parce que c'est une histoire complète qui peut se lire toute seule.
Mais c'est mieux d'avoir la série quand même.
C'est mieux d'avoir la
série. Le premier cycle.
Alors, il y a 12 tomes. Ah oui, donc, il y a le cycle 1 d'Angléon et le cycle 2 de Lys. Donc, ils se passent chacun sur un continent séparé. Donc, on pourrait les lire séparément. Mais le fait est qu'à la fin du cycle de Lys, il y a un événement qui se passe qui est d'ailleurs relié à Demeus Lore. Ouais. Mais si vous n'avez pas envie de lire les 12, si vous voulez vous faire une idée, c'est une bonne histoire complète.
C'est une bonne entrée, oui.
Ouais.
Les 5 terres, de façon générale, elle sur qui, Florence? C'est chez Delcourt. Je vois qu'on a dépassé le temps et normalement on aurait dû faire un diptyque avec Le Royaume sans nom. Je sais pas comment
bon
on
aussi.
Va faire. Qui est un petit peu du même acabit. Hein,
et qui m'a également beaucoup plu.
Des histoires de. Alors là, on est chez les lions. Avec un héritier qui semble être quelqu'un de très faible et on verra bien qu'il ne l'est pas.
Ah oui, c'est fameux héritier, oui.
Oui, oui, oui.
Qu'est-ce que c'est bon ça.
Avec un texte magnifique, très très bien écrit.
Texte magnifique, dessin, franchement.
Fantastique.
Oui.
Et des histoires, effectivement, avec les histoires, les relations entre les personnages, que ce soit les relations politiques, les relations familiales.
Très intelligente et complexe.
Oh, c'est
sûr.
Génial.
Oui, oui.
Le Royaume sans nom.
Oui, c'est remarquable.
Bonne série à suivre.
Ouais.
Ah oui.
Ou encore, c'est rigolo, ça fait vraiment un parallèle avec les 5 terres où les animaux, ce que sont les animaux, définit un petit peu des traits de caractère de leur civilisation. Et...
Petite chose quand même, c'est qu'effectivement, les 5 terres, on y pense quand même, effectivement, plus, ça fait penser à Game of Thrones, donc on est. Bon, Lys, c'est plutôt inspiré de l'Asie. Angléon, c'est quand même plutôt, c'est clairement l'Angleterre. Le Royaume sans nom, ça fait penser à des royaumes africains.
Ah oui.
Des grands royaumes africains avec une. Avec une inspiration sur l'Égypte ou le royaume de Kouch. Enfin, c'est vraiment très, très beau.
Ah non, c'est bien fait.
Et, voilà. Et pour le coup, ça nous change un peu quand même. Ça nous fait sortir des sentiers battus, c'est très bon.
Ah oui, oui. Non,
Et voilà. Et on n'a pas vraiment eu le temps d'en parler parce que là, vraiment, on a explosé le
temps. Peut-être qu'on en reparlera.
On en reparlera peut-être. On avait déjà parlé du tome 1, ça s'appelle le Royaume sans nom. Là, pour le moment, il n'y a que 2 tomes. Peut-être que ce sera un peu moins pléthorique que les 5 terres. C'est peut-être aussi.
C'est prévu visiblement pour être un triptyque, cette histoire-là.
Voilà. Oui, c'est sur 3.
Et que des fois, c'est peut-être le petit reproche que j'aurais aux 5 terres, c'est qu'au bout d'un moment, en faisant beaucoup, beaucoup, on crée un objet commercial qui est un peu embêtant et que des fois, les choses un peu plus courtes, c'est bien aussi.
C'est bien aussi.
Pour les bourses.
Mais cela dit,
sinon,
pour les bourses, il faut aller à la bibliothèque où on va trouver les 5 terres.
Nous y sommes.
Voilà.
À bientôt tous les
deux.
Au revoir. À très bientôt pour de nouvelles aventures bédéistiques. Je sais pas si ça marche, en disant.
Je pense qu'on peut.
Allez, je me permets. Ouais. Ciao, ciao.
Ouais. Allez.